Merci à tous d'être là. Et pour commencer Étonnant Voyageur sous vos auspices, il est 14h15 exactement et nous commençons à l'heure, ce qui est absolument extraordinaire et ne durera sûrement pas pendant tout le festival. Mais en tout cas, merci à vous d'être venus et j'avoue que je suis particulièrement impressionné pour commencer cette première après-midi d'Étonnant Voyageur. D'avoir l'honneur d'animer une table ronde avec des participants aussi prestigieux. Alors, honneur aux dames, tout d'abord. Gaëlle Carriger, qui est l'auteur de la série du Protectorat de l'Ombrel, que je pense un certain nombre d'entre vous ont lu, dont le tout dernier volume est ici, Sans âge, cinquième volume des aventures d'Alexandra Taraboti et Lady Megan. Donc, vraiment des vampires tout à fait étonnants. Puis Justin Cronin, ici, dont le deuxième volume, le premier c'était Le Passage, le deuxième ce sont Les Douces, qui viennent de sortir, aussi. Et une autre variété de vampires tout à fait effrayants. Et enfin, Johan Spark, que vous connaissez pour un certain nombre de bandes dessinées déjà, et qui vient de publier L'Éternel. Encore une autre variété de vampires, ce qui fait que là, nous allons avoir beaucoup à dire sur le thème, je pense, d'aujourd'hui, de cette table ronde, qui est les nouveaux vampires. Et pour commencer tout de suite, je vais d'abord peut-être poser la question honneur aux dames, et en même temps, je vais procéder de manière un petit peu logique. On va procéder par... ordre historique pour voir quels sont ces nouveaux vampires et donc par période historique et les vampires du monde de Gaëlle Carriger sont des vampires victoriens donc puisque le meilleur ami d'Alexandra Taraboti est Lord Akeltama, un vampire particulièrement flamboyant et étonnant. Donc je passe la parole à Gaëlle Carriger pour parler un petit peu de Lord Akeldama, ce vampire extraordinaire.
Okay. Hi everybody, thank you for having me. I apologize for not speaking French. I took Spanish in school. let me see. I like to think about the Gothic origins of the Western idea of a vampire. And so when I'm exploring my creatures, I'm thinking about them from the perspective of when they were originally created by the Victorians. And then I'm taking them and sticking them in the Victorian world and watching how the Victorians would react to them. And I also write funny, I write comedy. So I wanted to explore how vampires would really behave in high society. And so my vampires, they all sparkle, but it is with jewelry and fashion.
Alors, tout d'abord, bonjour et merci de m'accueillir. Je suis vraiment désolée, je ne parle pas français, j'ai fait espagnol à l'école, alors bon, c'est pas facile. Donc moi ce que j'aime c'est étudier l'origine gothique de l'idée occidentale que l'on a des vampires et je voir comment ces créatures qui donc ont leur origine à l'époque victorienne les prend ces créatures et les mettre à l'époque victorienne et voir comment elles peuvent agir. Et puis il faut dire que mes romans c'est de la comédie hein. Donc j'ai voulu voir comment les vampires pouvaient se comporter dans la haute société. Alors, moi, mes vampires, ils brillent. Alors, ils brillent, mais par leurs bijoux.
Mais pas simplement par leurs bijoux, aussi, dans un certain nombre de cas, par leur intelligence, d'une part, et leur science politique.
Yes, my vampires use wit, I think. Part of being old and having lived for a really long time is you are no longer violent. You are more likely to fight with your head than physically. And that's just the way I would imagine immortality has its effect.
Alors effectivement, les vampires, ils se servent de leur tête comme ils sont vieux et qu'ils vivent depuis des années. Je pense que à ce niveau-là, on n'utilise plus, on se sert plus de la violence, mais on combat les autres avec notre tête. Et en tout cas, c'est l'image que j'ai de l'immortalité.
Alors, on reviendra un petit peu après sur un certain nombre de points, mais déjà pour une première idée générale, on va peut-être passer ensuite à John Spara, qui lui, dans l'Éternel, décrit un vampire qui, bien qu'on soit dans le tête des nouveaux vampires, quelque part, c'est tellement nouveau qu'il est extrêmement traditionnel.
Oui, moi je suis très vieillot dans mon rapport aux vampires. Si vous me connaissez, je suis avant tout dessinateur de bande dessinée, et ça fait 20 ans que je dessine les aventures de Petit Vampire, qui est un vampire pour les enfants. N'empêche que quand j'étais enfant, le vampire qui m'a marqué, c'est le Nosferatu de Murnau. Donc c'est un vampire européen qui est né à un moment très particulier de notre histoire. Et il y a un livre que je vous recommande si vous aimez les légendes et le merveilleux, qui s'appelle La petite fille dans la forêt des contes de Pierre Péjou. Et c'est un livre où il trace l'histoire de tous les monstres et de toutes les créatures qu'on connaît en Occident. Et il y en a une dont il s'étonne qu'elle ne soit pas l'objet de contes et de légendes, c'est le vampire. Il dit, à part chez les Chinois, chez nous en Occident, il n'y a pas eu de contes de vampires pendant le Moyen-Âge. La première fois où on en parle, c'est le XVIIIe siècle, et c'est considéré comme une maladie. Et le vampire explose à la fin du 19e siècle et au cinéma, quand le cinéma arrive. On peut même dire que le vampire, c'est le cinéma, il se confond avec. Et l'explication qu'il donne, il dit que le sang que boit le vampire, contrairement à la chair que consomme le loup-garou ou le méchant loup, ce n'est que du sang, ce n'est pas un symbole. Donc cette créature qui va vous sucer le sang, c'est la créature qu'on déteste en politique. C'est le monstre qu'on va montrer du doigt. Alors parfois c'est le politicien, parfois c'est l'homosexuel, parfois c'est l'étranger. Et dans mon récit, évidemment, on est le monstre. Et on expérimente l'horreur qu'il y a à être le monstre dans une Europe qui n'est pas très paisible.
Il est d'ailleurs doublement monstrueux puisqu'il est juif en Ukraine. Juif et vampire en Ukraine.
Comme mes grands-parents, donc il n'a pas eu beaucoup de chance. Et il a aussi un aspect...
J'entends des doubles monstrueux pour, aux yeux d'un Ukrainien de l'époque. Hein. Mais, pas au mien.
Mais peut-être... Mais attention, peut-être à ses propres yeux aussi. C'est un aspect qu'on méconnaît très souvent dans le racisme. J'ai un copain qui vient d'une famille tunisienne et quand il a 5 frères et sœurs. Quand il était petit, il voulait aller aux anniversaires et il disait « Invite-moi à ton anniversaire, je te promets que j'emmènerai pas mes frères et sœurs. » Donc on est très vite convaincu qu'on est soi-même le monstre. Et pour montrer l'aspect merveilleux quand même de ce personnage, j'ai fait fabriquer la couverture par mon ami François Baranger, qui est un des illustrateurs du film Harry Potter. Je lui ai dit, je n'ai aucune image d'une Nosferatu de Murnau en train de voler. Or moi, c'est un vampire, mais c'est Peter Pan en même temps, donc je voudrais qu'il vole. Donc on a créé cette photo de toute pièce d'un vampire en train de voler. Donc il y a toujours les deux aspects chez moi. Je suis vraiment un auteur enfantin, donc je crois que l'aspect pour enfants existe. Et là, essayant de me confronter au vrai monde, forcément, il y a du sexe, il y a de la violence, il y a de l'horreur et tout. Mais je crois que ça garde le ton de mes récits pour enfants. Mais c'est pas pour enfants du tout.
Et le vôtre a une origine extrêmement traditionnelle en même temps.
Le mien ?
Oui.
Oui, c'est le
votre vampire, parce que c'est dans la tradition russe, devient vampire le mort qui se rebelle.
Alors, il y a ça. Moi, dans mon esprit, le vampirisme littéraire en Europe, il vient pas de Bram Stoker, il vient d'Alexandre Dumas. Pour moi, le premier récit qui respecte toutes les règles du vampirisme, c'est le Comte de Monte Cristo. C'est ce type dont tout le monde croit qu'il est mort, qui revient de la tombe pour exécuter froidement sa vengeance. Il attaque la nuit, il est implacable, et il y a avec lui une très belle femme qui est encore pire que lui et qui s'appelle Haydée. Donc moi, avant Sheridan Le Fanu, avant Bram Stoker, avant même le cinéma, pour moi, il y a Alexandre Dumas. Et pour moi, entrer en littérature, pour la première fois, ne pas mettre de dessin sur un de mes récits, c'est la première fois que je fais un livre non illustré. J'ai déjà fait des romans, mais ils étaient illustrés. Pour moi, il fallait que ça parte d'Alexandre Dumas. Et moi, mon roman préféré, c'est Le Comte de Monte Cristo. Donc ça dit ça aussi un petit peu.
D'accord. Alors maintenant, on va arriver à la dernière variété de vampires, si j'ose dire, avec Justin Cronin, qui lui a des vampires qui apparaissent aujourd'hui dans notre époque contemporaine. Donc Justin, si vous pouvez en parler.
My vampires are creations of science. I I'm generally suspicious of and uncomfortable with magic in fiction. And I wanted to write a story that I needed, first of all, I needed a monster. And so the selection of the vampire as the monster was not quite arbitrary, but I did not think of the book I was writing as a vampire book per se. I've just always found the vampire story to be the vampire is the most literary of monsters. It has the most details that you can use. The vampires of the passage are the real vampires. The story involves a scientist who goes looking for the virus that he believes is the origin of the vampire legend. And the creatures of the passage are people infected with the virus, and there's a well-established tradition of vampirism looked at as a disease. But the vampires of the passage are biological creations whose physical symptoms are the origin of the legend. And I tried to find an analog in nature for each of the traditional details of the vampire story. The virus interacts with the thymus gland, which involves the creation of antibodies and the immune system. It produces a variety of traits. I worked through the list of traditional vampire traits, trying to account for each of them, including those that seem to me the most magical. And the best example I can give of this is the clearly impossible quality of being invisible in a mirror. Everything made of molecules is visible in a mirror. However, and this is, as I said, it's just an example of the kind of thinking that went into the book, the vampires, and the word is almost never used in the book, and it's only ever used with a kind of raised eyebrow, sort of, the vampires, can you believe that sort of tone. The vampires of the passage, when they see themselves in a mirror, experience something that sooner or later most of us experience. For instance, in middle age, when they look at themselves in a mirror and they say, "Oh God, what has happened to me?" This is also the experience of people who are profoundly ill. And as a consequence, this is a moment when the creatures of the passage experience a moment of profound melancholy. It is a very good moment to kill one if you need to do so. Another example is the business about vampires being frightened by crosses.
I told you, I warned you about this.
Les vampires sont des créatures qui sont issues de la science. Quand j'ai commencé, je ne me sentais pas à l'aise avec tout ce qui partait d'une idée de fiction, de la magie. Donc quand j'ai essayé de trouver le type de monstre sur lequel j'allais travailler, je dirais que le choix du vampire ne s'est pas fait de façon arbitraire, mais presque. J'ai quand même choisi le vampire parce que c'est la forme la plus littéraire du monstre pour moi, c'est celle qui donne le plus de détails. Quand, dans mon livre Le Passage, l'histoire, c'est en fait que des scientifiques travaillent sur la recherche d'un virus, le virus qui serait à l'origine de la naissance des vampires, et que ces créatures infectées souffrent en fait de la maladie du vampirisme. Mais il s'agit là d'une création biologique, et je me suis reposée sur les symptômes physiques du vampire pour essayer de créer une analogie avec la nature. Par exemple, les virus sont liés à l'activité du thymus qui produit des anticorps, qui produit chez le vampire certains traits, certaines caractéristiques. Et j'ai examiné l'un après l'autre les différents traits et caractéristiques des vampires, même les plus magiques, comme par exemple, je vous donne un exemple, la qualité absolument impossible de se trouver soi-même invisible dans un miroir. Ce qui, vous en conviendrez, est absolument impossible. Tout ce qui est constitué de molécules est forcément visible dans un miroir. D'ailleurs, le mot vampire n'est quasiment pas utilisé dans le passage. Et quand les vampires, à la fin, se voient dans un miroir, ils font l'expérience de ce que chacun de nous peut peut-être faire, soit en cas de grave maladie ou au moment de la crise du milieu de vie, en se disant « mais que s'est-il passé ?» et en se posant la question, en tombant dans une profonde mélancolie et en se disant « s'il y a un moment pour en arriver à la mort, c'est bien celui-là. »
I think you did a wonderful job. Thank you. I could list many other details, but perhaps I'll just come out and watch it.
Justine, nous attendons parce que là vous avez été coupé dans votre élan et apparemment nous n'en étions qu'à l'introduction.
Some of the details aren't physical symptoms. They're circumstantial. Details. For instance, the vampire legend that we all live with is essentially an Eastern European folk tale. One of the attributes of the traditional Gothic vampire is that he is afraid of Great Cross. Now, in the world of the passage, which mostly occurs 100 years from now after this epidemic has devastated humanity, this is a world without, for instance, firearms that work anymore. If you were going to kill something, the best way to do it would be with a crossbow. In a post-industrial world, that would be the best weapon if you had to shoot something in the center of its chest. You would not call your crossbow a crossbow. You would shorten it to your cross. Right? So again, it's a naturalistic explanation for a detail that has become myth.
Je vous donne un autre exemple sur un détail qui n'est pas forcément physique, mais un détail de circonstance. La plupart d'entre nous, quand ils pensent légendes de vampires, ont à l'esprit les légendes qui viennent de l'Europe de l'Est. Et l'un des attributs traditionnels du vampire qu'on s'imagine, nous, en Occident, c'est la peur de la croix. Dans le passage qui se passe dans une centaine d'années après cette épidémie, par exemple, il n'y a plus d'armes sur Terre. Donc, le meilleur moyen de tuer quelqu'un, c'est d'enfoncer un piquet à croix dans le cœur de l'ennemi. Ce serait la meilleure arme dans une ère post-industrielle. On ne parlerait même pas de piquet, on dirait j'enfonce la croix.
Alors, je voudrais maintenant revenir un petit peu, parce que Justin a commencé à en parler, sur l'origine de vos vampires, parce que chacun sont très différents. Chez Justin, donc, c'est un virus qui est modifié lors d'expériences militaires, et puis ça part complètement en vrille après. Mais ce qui m'a frappé, c'est que chez chacun de nos trois auteurs ici présents, les origines sont très différentes. Alors chez Gail Kaliger, je vais lui demander peut-être d'en parler beaucoup plus, elle a très finement, complètement renversé ce qui est traditionnellement l'origine du vampire, avec l'Église qui déclare toujours que les vampires sont des créatures sans âme qu'il faut détruire. Et chez elle, justement, pour ceux qui ont lu le protectorat de Noël, c'est exactement l'inverse. On devient vampire ou loup-garou parce qu'on souffre d'un excès d'âme. Donc j'aimerais savoir pourquoi elle a choisi ce renversement complet.
Well, I actually approached it very similarly, except I tried to think about how the Victorian scientists would try to explain their vampires, and they are not using the same science we are using. So I tried to imagine a world where Victorian science works, and the world functions the way they thought it functioned. And so within that context, you have to explain things biologically about vampires and werewolves. You have to explain an apex predator, top predator, needs a biological control. So you have to have something that limits their ability to breed, and otherwise they will take over like humans have. So you need, that is why birds of prey only have one baby and rabbits have hundreds. So my vampires needed to be controlled biologically. And for me, the way to envision that was, it was very difficult to survive being bitten. And that survived, and so I had to make it, it was an easy jump to think, in order to survive, you had excess of something. So people who have too much of something, they can survive dying because they have that little bit left over. And the way Victorians would explain that, because science is mixed up with religion in the Victorian era, would be by calling that thing soul. Whether that is true or not, we don't know.
À ma manière, j'ai un peu la même approche que mon collègue, c'est-à-dire que je voulais trouver une façon qu'auraient les gens qui vivaient à l'époque victorienne d'expliquer le vampire. Et du coup, j'ai inventé un monde où la façon de voir le monde victorienne était vraie, comme si le monde fonctionnait vraiment comme les victoriens l'envisageaient. Et du coup, il fallait trouver une explication biologique au fait de pouvoir devenir vampire. Alors, je vais prendre l'exemple des prédateurs les plus dangereux sont contrôlés biologiquement, c'est-à-dire qu'on limite leur reproduction pour pas qu'ils contrôlent complètement la planète, ce qui est le cas pour le coup des hommes. Mais prenons par exemple les oiseaux de proie, ils vont avoir un seul bébé, par contre les lapins, ils en ont plein, parce qu'ils ont plus de chances de se faire manger. Et donc, les vampires doivent être contrôlés comme ça d'un point de vue biologique. Et je me disais que comme c'était difficile de survivre à la morsure du vampire, eh bien, ce qui permettrait d'y survivre, ce serait un excès de quelque chose. Parce que si on a un excès de quelque chose, eh bien, du coup, il en reste, même si on nous enlève, et du coup, on peut survivre. Et comme à l'époque victorienne, la science était très liée à la religion, je me suis dit qu'on pourrait parler d'un excès d'âme, que ce soit vrai ou non.
Et, très bien, merci pour cette... Parce que je m'étais posé la question en lisant les romans, comment expliquer cette absence d'âme chez Alexandra Targotti qui lui permet comme ça de pouvoir travailler avec les vampires et les loups-garous. Je recommande d'ailleurs, il y a un passage, alors je ne sais pas si je ne voudrais pas non plus jouer les spoilers en racontant un petit peu trop ce qui se passe dans le Protectorat d'Ombrelle, mais je dois dire que Gail Carriger, dans le premier volume, a à la fin un passage absolument merveilleux sur justement la manière dont Alexandra Targotti, avec son absence d'âme, qui lui permet de rendre humain à nouveau les créatures surnaturelles. Il y a un passage absolument magnifique justement avec son vieil ami vampire, Lord Takaldama, à la fin du premier volume.
There is, just to add quickly, I think of Alexia, the character, as an electrical ground. I wanted to write a main character whose sole ability was to cancel out other people's abilities. So.
Oui, donc moi personnellement, je voulais un personnage principal qui serait capable de contrôler justement la nature surnaturelle des vampires et des loups-garous, et voilà, c'est Alexia.
En revanche, chez Joan Spahr, l'origine finalement, la manière dont Jonas se transforme en vampire reste un petit peu inexpliquée. Il serait des vampires.
Alors, ça c'est le sentiment qu'il a. Moi je n'ai pas eu besoin d'inventer mes propres vampires parce que dans ce domaine-là, je suis croyant. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'il y ait vraiment des vampires la nuit. Je crois que moi j'ai besoin d'eux pour créer mon imaginaire. Quand j'étais petit et que j'ai découvert le Dracula de Bram Stoker, on m'expliquait qu'on devenait vampire quand on était mordu par un vampire. Donc ça, dans mon esprit, ça ne marche pas puisque au bout de 3 semaines, tout le monde serait un vampire. Donc au bout d'un moment, on n'y croit pas. Ensuite, quand j'étais adolescent, les romans de Anne Rice sont arrivés, qui nous ont expliqué que quand un vampire vous fait boire son sang, il vous transforme en vampire. Et pour moi, c'était une explication qui relevait trop des tuyaux. J'avais besoin d'une explication qui fonctionne avec l'âme. Celle que j'ai trouvée, qui me semble littéraire et simple, c'est « on reste sur Terre quand on vous a brisé le cœur ». Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans les films de Guillermo del Toro, c'est ce qu'on retrouve dans ce genre d'histoire. Et comme en élève de Clive Barker, j'aime m'identifier au monstre, je me suis dit, qu'est-ce qui peut vous arriver de pire? Vous mourrez à la guerre alors que vous êtes sur le point de vous marier, et votre frère bien-aimé va s'envoyer votre nana. Et là, au moment où ils s'embrassent, vous vous réveillez. Et dans ce livre, on voit toutes sortes de revenants. Par exemple, il y a un papa qui était un très bon papa, un très bon mari, et ses deux activités l'embêtaient un peu. Par contre, il avait une maîtresse et il était très heureux avec elle. Alors, quand il meurt, le papa et le mari vont au ciel, mais il reste un fantôme. C'est l'amant qui est très heureux. Alors, le fantôme, c'est assez... Le vampire, c'est celui qui a quelque chose à régler.
Fantôme pétomane, d'ailleurs.
Oui, il a gardé ça, il est fait d'air, donc forcément. Et tandis que le vampire, on sent que il a vraiment quelque chose à régler, et que ça a à voir avec le sentiment.
Oui, mais en même temps, c'est très imprégné de la tradition russe de l'Empire. Le mort devient vampire lorsque c'était rebellé contre la religion, lorsqu'il était mort, fou de rage, etc. Donc quelque part, en même temps, Jonas est juif, mais il est très imprégné de toute cette tradition russe et ukrainienne au sein de laquelle il a été éduqué.
Il est surtout désemparé parce qu'il n'est pas très croyant.
et ça s'arrange pas avec la mort, c'est-à-dire qu'il se dit, bon bah moi maintenant que je suis mort, je vais avoir une révélation, on va m'expliquer ce qu'il en est de mais rien du tout, il apprend rien du tout, il est toujours aussi angoissé. Moi ce qui me fascine dans ces phénomènes de revenants, c'est que on prédit toutes les découvertes des sciences de l'esprit des centaines d'années avant. Quand on vous raconte que quelque chose n'est pas réglé pour le revenant et qu'il fait la même chose toutes les nuits, bon, au bout de 100 ans, on consulte et la psychanalyse vous dit « Mais ça, mon vieux, ça s'appelle une névrose quand on fait la même chose toutes les nuits. » Et j'ai vu il y a 3 jours le formidable film « Mama » que je vous recommande et qui peut être vu par des enfants, qui est un conte de fées très noir. Beaucoup de gens ont détesté ce film. À mon avis, c'est parce qu'il est dérangeant à un niveau très... vraiment très dérangeant. Et il dit ça. Il dit une nana qui a perdu son enfant, qui lui voulait du bien, mais elle a perdu même le cadavre. Donc, depuis 100 ans après, elle cherche les enfants des autres pour s'en occuper correctement. Le problème, c'est que quand les parents se manifestent, elle les tue. Bon. Mais on voit bien que ça part d'une bonne intention. Et moi, je suis fasciné par ces personnages dont on parle du vampire qui ne se voit pas dans un miroir. C'est le cas des serial killers. Qui ne veulent pas voir que l'autre a une âme, ou qui ne veulent pas voir ce qu'ils ont fait. Donc il y a une hypocrisie là-dedans. Mon personnage choisit de ne pas se voir dans un miroir parce qu'il ne veut pas voir ce qu'il a fait.
Oui, mais il essaye quand même d'un moment de s'accepter. Et donc il fait une analyse. C'est d'ailleurs, je veux dire, des passages absolument hilarants. Et vous évoquez d'ailleurs dans votre roman par moment Woody Allen, parce que Jonas, quelque part, devient un personnage, devient Woody Allen, il va faire sa psychanalyse. Alors il note d'ailleurs que c'est peut-être parce qu'à un moment il a consulté Jung que celui-ci, voyant l'échec, est devenu pas spécialement philosémite, comme vous le dites très gentiment. Et donc il fait ses psychanalyses en fait pour pouvoir s'accepter parce que lui n'a eu personne pour lui apprendre comment doit se comporter un vampire.
Peut-être ça c'est mon héritage de bande dessinée. J'ai pas envie qu'un récit soit obligatoirement horrible ou comique. Je crois que les deux peuvent intervenir. Pourvu qu'on croit à ce qu'on raconte, si on le fait de manière vraiment intense, on a le droit d'avoir très peur à un moment et de se marrer dans le chapitre d'après, tant qu'on reste dans le personnage. Donc je sais pas si ce récit est un récit d'horreur ou une comédie. Je pense qu'il y a les deux dedans.
Alors, d'ailleurs, ça m'amène à une autre réflexion que je me suis fait en lisant votre livre. C'est donc que chez Johann Spahr, le vampire, il est tout seul, personne ne lui a rien appris, il ne sait pas ce que c'est. Et en revanche, ce qui m'a frappé, c'est le traitement du vampire, j'allais dire, en société, chez Gail Carriger, où d'une part, la plupart des vampires vivent dans des ruches, hein, dont celle de la comtesse, et il y a le rebelle quelque part, mais qui vit lui-même en société avec ses drones lors d'un damar. Et chez Justin Twanin, par contre, là, les vampires, les 12 originaux, fondent ensuite, ils ont un certain nombre de vampires qui les suivent, 42,5 millions, et ils forment une sorte de, comment dirais-je, de gestalt. Donc, j'aimerais que vous expliquiez un petit peu comment vous avez vu cette vie en société des vampires.
Well, the vampires of the passage and the 12 they're essentially like they're more like schools of fish or flocks of birds. Their social organization is in that case sort of taken from things I've observed in nature that give me the creeps. The ability of a school of fish to kind of mysteriously turn on a dime as a group. But they're also psychologically linked the way that members of a hive of bees are connected biochemically to the queen bee. And each of the 12 functions rather like the queen bee over their viral tribe, those that have been infected with their particular chain of virus. So one of the original vampires, these are death row inmates who have volunteered to be test subjects with this virus. When they bite person one, infect person one infects person two, this creates essentially a kind of family of those infected. They also have, like yours, they have sort of mechanism for reproduction that caps the number. They're uber predators, rather like yours. they will kill 9 people and infect 1. This is essentially their reproductive mechanism. So out of 400 million people on the North American continent, what you get when it's all over is 40 million vampires and 360 million dead people. Again, their social organization is rather like a mob, and that's how I thought of them. They're like a crowd, acting as one in often completely violent and insensible manners.
Les vampires du passage et des douze fonctionnent comme des organisations sociales un petit peu comme des oiseaux ou des bancs de poissons, parce que je trouve les capacités de ces organisations de la nature assez effrayantes quand on voit la capacité qu'a un banc de poissons collectivement de retourner un filet très puissant, par exemple. Et on peut également comparer leur organisation à une ruche où les abeilles ont des connexions chimiques à la reine. En fait, dans les douze vampires originaux sont un petit peu chacun comme une reine mère responsable de leur propre tribu virale, car ils fondent chacun leur propre tribu virale. L'un des douze, par exemple, c'est un condamné qui est dans le couloir de la mort et qui décide de se porter volontaire pour le virus. Et quand le premier vampire infecte le deuxième, etc., ça finit par créer une famille. Mais comme vos vampires, les miens ont également une limite à leur reproduction. Ce sont des super prédateurs, mais ils ont un mécanisme qui fait que quand ils infectent une personne, ils en tuent 9 autres. Donc quand on ramène cela à la population américaine, sur les 400 millions de personnes, les 400 milliards de personnes qui vivent, 400 000 deviendront des vampires, mais 9 fois plus en mourront. C'est une manière de contrôler leur expansion. Et en matière de comportement, ils se comportent un petit peu comme une foule ou comme un gang qui agit violemment comme un seul homme.
En même temps, ce qui m'a frappé, c'est que par moment, les vampires se déplacent, fonctionnent par 3 ou par multiples de 3.
Oh yeah, they have the habit of hanging around in groups of 3. Yeah, they're in groups of small and large sizes. They're referred to by human beings as pods, which is a term that we use for groups of whales, actually. And I selected that entirely arbitrarily, so there's no meaning to be found in it. But they like groups of 3s. And again, I would say this is in some ways an arbitrary detail in the book. But it underscores the fact that they can't operate by themselves. They're part of a collective. And a group of 3 will be associated with a group of 12, and a group of 12 will be associated with a group of 24, a group of 24, and so on, until you get to the magic number, which is the sum total of one of these. You can call them a swarm, you can call them a hive, you can call them a school, or you could, as in the case of this book, call them a pod.
C'est vrai qu'ils ont l'habitude, dans mon livre, d'être en groupe de 3. Le mot anglais, c'est pod, c'est ce qu'on utilise quand on parle de groupe de baleines. Si quelqu'un dans la salle sait comment on appelle spécifiquement un groupe de baleines en français, je suis preneuse. C'est un détail arbitraire, mais c'est simplement pour montrer qu'ils ne fonctionnent pas seuls. D'un groupe de 3, ils passent à un groupe de 12, puis de 12 à 24, puis ils arrivent au nombre magique qui fait qu'ils commencent à constituer ce qu'on peut appeler soit une ruche, soit un banc, soit un troupeau, soit un ensemble cohérent, en tout cas.
Et chez vous, Gaël, aussi, les vampires sont sociaux. Vous parlez même de ruches, par exemple, pour celle de Londres, de la comtesse Nadasty, etc.
I also based mine on very specifically wasps or beehives. And that is because in my world, werewolves have an alpha male, and they are therefore patriarchal. And I wanted to counter that with vampires that had a dominant woman. And so I looked to nature and found beehives. And I also wanted creatures that were territorial. And I love the idea of hives dominating an area socially and feeding-wise. But also I like the idea, which I explore in one of my later books, of the hive swarming if their house is threatened in some way. So vampires are very protective of where they live and who knows where they live because if that area is threatened, they will literally have to up and swarm, and you get to see that happen with the queen, and she goes crazy, basically. And that's fun to write.
Alors, moi, je me suis principalement basée sur les guêpes et les abeilles. Et tout ça, principalement parce que dans mon monde, les loups-garous fonctionnent avec un mâle alpha à leur tête. Et du coup, donc une société très patriarcale. Et du coup, je voulais contrer ça avec une société où là, ce seraient les femmes qui seraient à la tête. Et du coup, j'ai pensé aux abeilles ou aux guêpes. J'ai également pensé à elles à cause de l'aspect territorial, c'est-à-dire que bah, les ruches sont dans un endroit spécifique et qu'elles ne s'éloignent pas énormément. Et il y a aussi l'idée de la réaction des guêpes ou des abeilles si jamais on attaque leurs ruches. Et je voulais aussi que mes vampires veuillent défendre leur territoire, et c'est ce qui se passe dans un des romans avec la reine qui devient complètement folle, et c'est super sympa à écrire.
Mais c'est vrai que même chez vous, celui qui est quelque part le vampire rebelle, Lord Alcaldama, lui-même est très protecteur de ses domestiques, de ses suivantes, qu'il appelle des drones. Et donc, on voit que chez le vampire, même rebelle et solitaire, il ne peut quand même pas rester seul.
Yeah, exactly. My vampires are not solitary ever. They are what I would call hive bound, and it's part of surviving being so old. They need other people around them. And Lord Alcaldama in particular, I think, needs the use of his mayflies, the mortals who do not live very long. He doesn't feed off of them, but they keep him young by having all of these young ones about him. And
he's a college professor.
Yes, and he likes to take care of them and spend money on them. And they're his boys.
Alors oui, effectivement, les vampires ne sont jamais des solitaires. Hein. Je pense que c'est aussi parce qu'ils vivent si vieux. Quelque part, ils ont besoin des autres autour d'eux, et c'est surtout là de Lord Alcaldama, effectivement, qui lui a besoin de cette jeunesse qui l'entoure, vu que lui, il est vieux. Alors, il ne se nourrit pas d'eux, mais c'est eux qui lui permettent de rester jeune. Et il aime bien en prendre soin, dépenser des sous pour eux, et puis, bah, c'est ses garçons, quoi.
They are also his lunch.
Il en fait aussi son casse-croûte.
Et aussi ses informateurs, ceux qui lui permettent de rester au sommet à Londres.
Yeah. My vampires collect things. So the queens often collect power or clothing or jewelry, and Lord Alcaldama collects information.
Oui, alors effectivement, les vampires ont tendance à collectionner des choses. Alors les reines, elles vont collectionner les vêtements ou des bijoux, et Alcaldama, c'est les informations.
C'est vrai, je dis, maintenant que vous le dites, ça me paraît évident. Parmi ces collections, ils collectionnent aussi les informations. Mais pour en revenir à cet aspect de solitude, même chez vous, Johann Spahr, Jonas, quand même, finalement, ne reste pas tout seul. Il y a d'abord cet étonnant chêne au pendu parlant, et puis surtout, il a sa mandragore.
Oui, son état de vampire, c'est une porte ouverte vers tout un monde imaginaire. Il y a deux manières de qualifier le récit de monstre. Le monstre, c'est soit la créature dont on a peur, soit la créature qu'on devient. Je me suis beaucoup intéressé à l'enfance maltraitée, et j'ai lu beaucoup de rapports sur dans quel état on récupère des enfants. Et il y a des mots qui reviennent toujours dans les rapports. On vous dit « cet enfant était pétrifié ». Cet enfant était dur comme du bois. Cet enfant était cruel, mais n'avait pas conscience de sa cruauté. Donc pour moi, parler d'un monstre, c'est dire ça. C'est dire quelqu'un qui a été tordu dans un état qui devient incompatible avec le reste de l'espèce humaine. Donc sans aucun doute, mon vampire, sa mandragore, ce type qui se transforme en loup dès qu'il voit une fille, ce sont des personnages qui ne sont plus vraiment en chair. Ils sont dans une autre matière, et ils essayent de rendre cette matière compatible avec le reste du monde. Donc cette horreur-là, l'horreur d'être soi-même un monstre, elle m'intéresse, et je la traite pas dans un réalisme de serial killer, je la traite dans ce réalisme qui consiste à dire « cet enfant était pétrifié ». Donc effectivement, il y a une mandragore qui est drôle, qui est charmante, qui est tout ça. Quand on voit pourquoi elle est devenue une mandragore, elle est devenue comme ça parce qu'à un moment, il fallait du bois pour se protéger des hommes. Là, la chair, c'était trop fragile.
Merci. Je vois que l'heure tourne et je pense que si on veut avoir le temps de prendre quelques questions, c'est peut-être le moment maintenant. Je suis impressionné par ce silence, mais j'ai quand même du mal à croire que nos amis ici présents aient été si exhaustifs sur le domaine des mouvements vampires que vous n'ayez plus rien à dire.
On a besoin d'alcool pour aider un peu.
Ou alors peut-être tout le monde est en train de digérer. C'est toujours dangereux. Richard, voilà, il y a quelqu'un quand même qui se lance.
Bonjour, je ne suis pas sûr, mais bon. Je voulais savoir si vous lisiez beaucoup de littérature vampirique, ou si ce n'est pas de vos habitudes, quelles sont vos sources, qu'est-ce qui vous énerve, qu'est-ce qui vous énerve pas.
Pour répondre brièvement. Moi, j'ai une passion enfantine pour les vampires, et je crois que tout ce qu'on a en commun, c'est que c'est une tradition, que ce soit au cinéma ou en littérature. Donc il y a des règles obligées, que ce soit Kim Newman dans Radio Dracula, que ce soit 30 jours de nuit, que ce soit Let Me In, tous ces récits de vampires respectent les règles du récit de vampire. Maintenant, quand un récit ne respecte pas les règles, moi, comme réactionnaire traditionnaliste, ça m'agace. Et par exemple, un vampire qui sort le jour, ça m'énerve. Un vampire qui brille le jour, ça m'énerve. Donc, s'ils deviennent inoffensifs, moi, ça m'énerve. Tant qu'ils servent à mettre mes cauchemars et mes terreurs, ça me va. Le jour où ils deviennent inoffensifs, ils m'énervent.
Bien, Justine.
Well, I like to write about vampires as purely comic. So, I mean, my vampires aren't dark a little bit. But I just think it's like when a vampire is first created and they have fangs for the first time, they lisp because they don't know how to speak properly with the fangs. So, because that's what would happen. Have you ever worn fangs? I have, even if they make you lisp. So things like that, so far as reading it myself, I don't read many of the modern vampire books. I like the Victorian stuff the best, I think. And I don't find vampires very sexy. It kind of, the age difference thing,
it hard.
Really creeps me out. That's what's creepy about modern vampires. That's weird. So I prefer werewolves.
Yeah, I like to date in my own age group, too.
Alors moi déjà mes vampires, ce que j'aime bien c'est quand même l'aspect comique. Alors ils ont un petit aspect d'ombre forcément en eux, mais c'est quand même le côté comique qui m'intéresse le plus. Alors par exemple quand on crée un nouveau vampire, et ben, au début il sautote, enfin il n'arrive pas à parler correctement, parce que je sais pas si vous avez déjà essayé de porter des crocs comme ça. Ben moi j'ai essayé, je peux vous assurer que c'est pas facile de parler. Donc voilà, dans mes vampires ils sautotent au début quand ils sont créés. Alors, je ne lis pas vraiment de romans sur les vampires modernes, je préfère l'époque victorienne. Et j'avoue que je ne trouve pas les vampires sexy du tout. Alors je crois que c'est le problème de la différence d'âge, vraiment, franchement, moi ça me fait flipper, j'ai horreur de ça, c'est trop bizarre. Donc, moi je préfère les loups-garous.
Même avec les loups-garous, il peut y avoir une différence d'âge.
Mine just don't live very long, they tend to fight and die younger.
In dog years.
Yeah.
Donc, les miens ne vivent pas très longtemps. Ils ont tendance à se battre quand ils sont assez jeunes. Donc, ils rajoutaient, c'est en nombre d'années chiens.
Well, my sense of vampire literature, the stuff that I drew upon, was the vampire stories that I read when I was a kid, which was actually mostly comic books and movies and an extremely bad television show called Dark Shadows, which was the basis of a pretty terrible movie as well, if I'm not mistaken. And if you go look at Dark Shadows now, which you can on YouTube, it looks like a bad high school play, I assure you. But when you're, 8 years old and watching it after school, it was the most terrifying thing ever. I chose vampires as my monster because, again, I just needed a monster. And I was sort of shopping for the right one to do the work that I wanted in what was basically an apocalyptic novel, not so much a gothic horror novel. And one thing I had noticed in film in particular, and I'll name a couple of movies in a second, was that the vampire story was very, very sticky. You could take a vampire of any particular kind and attach it to another kind of story, another myth, another type of narrative, and you could reform them into each other and get a kind of whole new story. And I saw two examples of this, both that expressed very strong contemporary anxieties. Am I going too long?
No.
Okay. One of them was a movie called Near Dark, which was sort of a B movie in the mid 80s. Catherine Bigelow directed it. It was her first big movie. You might know her as the director of The Hurt Locker and Zero Dark 30. And without going into too much detail about this movie, which is a wonderful bad movie, it's about a group of vampires riding around the American West in a Winnebago with blacked out windows. And they go into roadhouse bars and kill everybody. There's a plot to the movie too, but I won't bore you with that. This particular scenario struck me as one that had taken the vampire story and soldered it onto a very particular American mythology, which is the highway drifter serial killer, which is actually a staple of Western literature as much as anything else. I've said too much as it is, but I noticed that in several vampire stories of the period, several vampire movies in particular, the vampire story was very good, and you could reshape it to express a very particular anxiety that felt current to the moment.
Donc encore une fois, j'ai choisi les monstres, pas tout à fait par hasard, mais j'ai choisi le vampire, comme le type de monstre que je voulais pour le placer dans le monde apocalyptique que je voulais décrire. Je vais vous donner quelques exemples de films. Je trouve que l'histoire de vampire, elle est très intéressante parce qu'elle peut toujours être reliée à un autre récit, à une autre narration. C'est quelque chose qui se transforme facilement, qui est facilement malléable et qui peut servir à exprimer les angoisses ou les peurs spécifique à une époque. Je vais vous donner un exemple de film. Le film Near Dark de Catherine Bigelow au milieu des années 80. C'est la réalisatrice de Zero Dark 30 récemment. Et bien, c'est un super mauvais film. Il est mauvais, mais il est super parce que dedans, on voit des vampires qui traversent l'Ouest américain dans des grandes voitures avec des vitres fumées, qui rentrent dans les bars, qui rentrent dans les saloons et qui tuent tout le monde. C'est vraiment l'exemple typique. Bon, je ne vais pas vous raconter l'intrigue, ça a peu d'importance, mais c'est pour vous montrer que dans ce scénario-là, on a repris l'histoire de vampires et on l'attache à une mythologie très profondément américaine, la mythologie du bandit de grand chemin, du tueur de grand chemin, du tueur de saloon. Et dans plusieurs films, ça fonctionne. L'histoire de vampire peut être très malléable et servir à traduire les anxiétés et les névroses propres à une période.
Une autre question ?
Bonjour. Moi, j'ai entendu parler d'histoire de monstres, et on m'a toujours dit que tous les monstres qui avaient été inventés il y a assez longtemps, ils étaient toujours basés sur des faits réels qu'on avait un peu exagérés. Et donc, j'aimerais savoir si quelques-uns d'entre vous ont cherché à savoir justement s'il y a, en tant qu'auteur de vampires, s'il y avait des faits réels qui avaient un peu influencé le fait de la création des vampires.
En Europe, en tout cas, il y a deux réponses intéressantes à ta question sur les vampires. Il faut que tu saches qu'avant le 19e siècle, l'explication scientifique n'existait pas beaucoup en Europe. Si tu étais un docteur et que tu étais riche, tu avais raison par rapport aux paysans. Donc, au XVIIIe siècle, beaucoup de messieurs ont affirmé des choses sur les vampires, et tout le monde pensait qu'ils avaient raison. On considérait le vampirisme comme une maladie. C'est pourquoi on a retrouvé beaucoup de tombes, en Italie en particulier, avec des pierres dans la bouche, pour pas que ces gens reviennent comme des vampires. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir à quelle époque apparaissent les monstres. En 1933, sont apparus deux monstres, le monstre du Loch Ness et King Kong. Et la même année, Hitler arrivait au pouvoir. Après la Deuxième Guerre mondiale, au moment où on s'inquiète des soucoupes volantes, il y a la guerre froide. Donc le vampire, au moment où Bram Stoker le fait entrer en littérature, avec son sang, avec ce type qui vient d'Europe de l'Est, c'est le moment où on a peur des bolcheviks, de la peste et des juifs. Donc ça raconte ça aussi. Donc à chaque fois, ça vient pas vraiment d'un petit événement, mais ça vient d'un agrégat de choses, ça vient jamais à n'importe quel moment en tout cas.
What kind of work is it? I like historical people who were accused of vampirism as well. So I like to look at people who others thought were vampires, like the Comtesse de... I don't know the French. In my books, she is Countess Nadasti, and that is one of her names, the Bloody Countess of Northern Italy, maybe? I can't remember the location.
The Comtesse Bathory, maybe?
Yeah.
Countess Bathory,
in Langage. Yeah, that's so she bathed in the blood of virgins because she thought it would make her younger, and so people thought she looked a vampire. And I also like to look at vampires represent our fears. So vampires are different in different parts of the world. And my favorite is the highlands of Peru, the Andean Mountains, where they have a vampire called a Ixtaco, which is a vampire that sucks fat instead of blood.
That's coming handy.
Which is common gold. And it's mine. You can have it. It's coming in. It'll be in a new book soon. And that is because you need to survive the winters in the highlands. You need fat. It's very important, and so you are terrified of losing it. And so their vampires are fat eaters.
Oui, alors bah, personnellement, j'ai beaucoup aimé faire des recherches sur les gens qui ont historiquement été accusés d'être des vampires. Donc dans mes romans, il y a la comtesse Nadasdi, la comtesse sanglante, je ne sais pas si...
C'est la comtesse Bathory.
Bathory, pardon. Et qui s'était baignée dans du sang de vierge pour rester jeune. Et du coup, on l'avait accusée d'être un vampire. Mais je pense que les vampires, de toute façon, sont un reflet de nos peurs. Et du coup, ils sont différents dans différents endroits du monde. Par exemple, dans les Highlands, il y a un vampire qui s'appelle Ixtaco. Et qui, plutôt que de boire votre sang, il boit votre graisse. Alors oui, pour nous, ça peut paraître pratique, hein, ça peut être sympa, mais là-bas, en fait, c'est juste que parce que pour survivre l'hiver, bah, vous avez intérêt d'avoir de la graisse. Et du coup, bah, si on vous la prend, bah, vous êtes mal parti. Donc je vous préviens, c'est mien. C'est dans un bouquin à venir, vous ne le piquez pas. Imaginez si à Hollywood, il arrivait à trouver ce vampire-là, ce serait quand même...
Well, I guess what I would say is that my novel, The Passage, and then it's the second book, The Twelve, is actually a dramatization of what the young lady just described. I mean, it's an imaginative dramatization of the same idea, where a scientist who is aware of the vampire legend and the many cultures in which it's traveled and its various forms comes to believe that it has a basis in fact, and that this fact is biological and viral in nature, can be located and then resuscitated. So, in a sense, I let my book do the thinking for me in that regard. I created a character to do it instead.
Moi, mes deux livres, Le Passage et Les Douze, sont en fait une dramatisation, une mise en scène de ce que la jeune fille a juste dit, à savoir que l'histoire commence avec un scientifique qui connaît l'histoire, qui connaît la culture des vampires et qui commence à penser que tout cela s'est fondé dans du factuel, dans du biologique et du viral. Et il reproduit en fait ce mécanisme.
D'ailleurs, j'ai une question. Pourquoi avoir choisi la Bolivie, la jungle bolivienne?
Oh, why Bolivia? Because it's scary and remote. and indeed, there are lots of vampire-like stories that come out of South and Central America, various sorts of tribal stories. But they're all over the place. I mean, you can look at so many even familiar stories that we have as vampire stories. I often cite the original vampire story in the Judeo-Christian tradition as the story of the Garden of Eden, which actually has all of the features. So it has fanged creature, it has temptation, it has questions of mortality, it has a seduction, it has all of the material. And I think that's what's so compelling about the vampire story in general, is it's a very powerful fable that reassures us that it's ultimately a much better deal to be mortal, right? Which is something we all have to come to terms with.
Oui, la Bolivie aussi, parce que les légendes sur les vampires abondent en Amérique centrale et en Amérique du Sud, mais on en trouve partout. Et d'ailleurs, pour moi, la première histoire de vampire judéo-chrétienne, c'est le Jardin d'Éden. On a tous les éléments, la tentation, la séduction, la mortalité, toute la recette est déjà là. Et quelque part, c'est très intéressant parce que je trouve que c'est réassurant. Ça nous permet de nous dire que finalement, il vaut mieux être mortel et que de toute façon, comme c'est notre destin à tous, autant d'être persuadé.
Je crois que ceci, l'heure a tourné, je crois qu'on fait, ceci nous fournit une très belle conclusion à cette table ronde sur les nouveaux vampires. Et donc, merci beaucoup pour nous avoir écoutés.